travailleuses, travailleurs. On le constate tous, je pense, autour de nous, cette campagne des européennes n'intéresse pas, mais alors pas du tout le monde ouvrier. Et on le comprend. L'écrasante majorité des travailleurs a des soucis par-dessus la tête, parce que dès qu'on n'a pas d'argent dans cette société, tout se transforme en cauchemar. Il y a ceux qui galèrent pour trouver un boulot, ceux qui en ont un, mais ils galèrent quand même pour finir les fins de mois, et ceux qui sont à la retraite et continuent de galérer avec leur petite pension. Et c'est pire encore quand on est handicapé ou quand on est malade. Alors, les travailleurs ont appris depuis longtemps qu'ils n'avaient rien à attendre des pouvoirs publics, que ni Pôle emploi, ni je ne sais quel accompagnement social changera leur sort. Autant dire qu'ils n'attendent rien de ce foutu Parlement européen. En plus, il y a dans cette campagne tout un aspect indécent. Entendre, par exemple, de la part de Nathalie Loiseau, la promesse d'une Europe sociale ou d'un SMIC européen, quand toute la politique de ce gouvernement, a consisté à attaquer les droits des travailleurs pour faire cadeau sur cadeau aux plus riches. Alors bien sûr que tout cela dégoûte. Et puis, comme l'a dit Jean-Pierre, ils nous baladent avec l'Union européenne. Les uns, quand ils veulent prouver que tout est de la faute de l'Union européenne, les autres, quand ils veulent la faire passer pour la seule planche de salut. Tout ça est de l'enfumage, et ça se voit. Les employés d'Auchan, qui sont, par exemple, sur la sellette, voient très bien que ce n'est pas l'Union européenne qui leur tombe dessus. Et les salaires bloqués, les petites retraites, les petits boulots de quelques heures, tout ce qui pourrit nos vies au quotidien, ce n'est pas l'Europe. Alors oui, cette campagne a de quoi écœurer. Et beaucoup de travailleurs ont envie d'envoyer balader tout ça. Les uns, sans doute d'ailleurs les plus nombreux, le feront en s'abstenant. D'autres le feront de la pire façon possible, en votant Rassemblement National, hein, c'est-à-dire pour ceux qui se prétendent faussement anti-système. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette galère de ces élections? Pourquoi présentons-nous une liste? Pourquoi voter et faire voter pour le camp des travailleurs? Eh bien, tout simplement parce que s'abstenir, c'est se taire. C'est laisser d'autres parler à notre place. Et puis, c'est déserter le combat politique. Et quand on est exploité, quand on a la possibilité de protester clairement contre tout ce système, eh bien, il faut le faire. Il faut montrer qu'on existe, qu'on défend ses intérêts, qu'on est conscient des luttes qu'il y a à mener. Les élections européennes, et c'est vrai pour toutes les élections, y compris l'élection présidentielle, les élections n'ont jamais changé le sort des travailleurs et ne changeront jamais leur sort. La condition d'exploiter ne dépend pas des gouvernements, ni des lois qu'ils peuvent faire ou défaire. Le fait d'être pauvre ou riche, d'appartenir à la classe ouvrière ou à la bourgeoisie, n'est inscrit nulle part. Aucune loi n'impose l'exploitation, ni ne force les travailleurs à se faire voler le fruit de leur labeur. Mais quand on ne possède pas de capitaux, eh bien on n'a pas le choix. La seule façon de vivre dans cette société, quand on n'a pas de capitaux, eh bien c'est de vendre sa force de travail pour enrichir celui qui en détient, et c'est de se défendre dans cette société de classe. Alors oui, les travailleurs ne sauveront leur peau qu'en se battant pied à pied avec le grand patronat, avec ses armes de classe. Les manifestations, les grèves, les occupations d'usines, les révoltes ouvrières. Mais il ne suffit pas d'en appeler aux grèves ou à la révolte générale. Une fois que la révolte est là, ce n'est que le début du combat. Il faut savoir où aller, quels objectifs poursuivre, qui mettre en cause et comment. Oui, quand les travailleurs sont en lutte, ils ont aussi besoin d'une politique. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Il peut y avoir de la contestation sociale, de la détermination, et les travailleurs peuvent y jouer un rôle prédominant, sans pour autant avoir une vision claire du combat à mener. Alors les élections ne peuvent pas être un but en soi pour les travailleurs, mais elles offrent la possibilité de se regrouper derrière un programme et derrière une politique. Contrairement à ce que l'on a entendu dans le mouvement des Gilets jaunes, les travailleurs doivent avoir leur politique, leur parti, dans lequel placer leur confiance. Il faut qu'ils aient conscience d'appartenir à un camp politique opposé à la bourgeoisie et à tous les bénis, oui, du capitalisme. Cette politique ne peut pas être une politique électorale, elle doit être une politique et un programme pour les luttes, c'est-à-dire des mesures susceptibles d'être imposées sous la pression collective des masses exploitées. Alors nous serons minoritaires à exprimer cela dans les prochaines élections, et nous le resterons tant que les travailleurs ne renoueront pas avec les luttes puissantes et tant que leur force sociale ne sera pas palpable pour le plus grand nombre. Mais si nous parvenons à semer dans les consciences ouvrières les objectifs de lutte que Jean-Pierre a développés, eh bien si demain plus de travailleurs sont conscients du combat à mener, eh bien oui, nous aurons réussi notre campagne. Les souverainistes et les xénophobes de tout poil ont le vent en poupe dans cette période de crise, dans tous les pays européens. Ici, une partie des nôtres a le sentiment que voter pour le parti de Le Pen leur permettra de se démarquer et de dénoncer tout le système. C'est une grossière erreur. Voter Rassemblement National, c'est remettre un jeton dans la machine, parce que les politiciens du Rassemblement National sont des politiciens comme les autres. Ils louchent tous vers les sommets de cette société. Ils sont rigoureusement comme les autres politiciens avec leur discours sur la compétitivité et la grandeur française. Exactement comme Macron, cela leur écorcherait la bouche de dénoncer les profits, de dénoncer l'exploitation et les responsabilités de la classe capitaliste. Ils préfèrent s'en prendre à des travailleurs parce qu'ils sont migrants ou étrangers. Ils défendent l'ordre bourgeois comme tous les autres politiciens. Mais le problème, c'est qu'en plus, ils distillent dans la classe ouvrière le poison de la division. Et cela sert le grand patronat, qui cherche toutes les occasions possibles pour opposer les travailleurs les uns aux autres et les affaiblir. Alors non, voter Rassemblement National, voter extrême droite, ce n'est pas se démarquer du système, c'est le conforter. Et encore une fois, c'est favoriser ceux qui haïssent les ouvriers, parce que la classe ouvrière est une classe sociale qui s'est constituée avec l'immigration. Les politiciens du Rassemblement National font partie de nos pires ennemis. Ils sont à mettre dans le même sac que Macron et que tous ces politiciens qui veulent nous faire payer les pots cassés de leur système et nous prêchent la résignation. Eh bien, dans cette campagne, il faut aussi en profiter pour le dire. Nous sommes dans une période où même s'il y a de la contestation sociale, le fatalisme continue de dominer dans les rangs des exploités. La conscience qu'il y a de l'argent dans la société existe. Lors de la surenchère des grandes fortunes pour Notre-Dame de Paris, tout le monde l'a vu. Mais ce n'est pas pour autant que les travailleurs se sentent en mesure de contester à Pinault ou à Arnault le droit d'accaparer cet argent et de dominer du haut de leurs milliards. Ce que vit l'écrasante majorité des classes populaires, c'est la misère, les bas salaires, le chômage et la précarité. C'est cette réalité où il faut se battre pour tout, pour un emploi, pour un logement, une place en crèche, un rendez-vous chez un spécialiste, une place dans le bus. Alors oui, cette réalité de la crise pousse les plus pauvres à se replier sur soi. Et tous les démagogues s'en servent pour distiller leur poison. Même quand Le Pen n'est pas là, on a du Le Pen. Et il faut avoir une sacrée boussole politique et une sacrée combativité pour rejeter le discours de résignation qu'on entend tous les jours. Vous savez, ce fameux « on ne peut pas accepter toute la misère du monde ». Certes, aucun pays ne peut accueillir toute la misère du monde. Mais la question qui se pose, ce n'est pas d'accueillir cette misère, mais c'est de la combattre. Et c'est de combattre tous ces fauteurs de misère, ici et dans le monde. Ces fauteurs de misère que sont les groupes capitalistes. Et qui appelle les travailleurs à ce combat? Oui, qui, quel parti peut redonner confiance aux travailleurs dans leur force collective et dans leur capacité à changer toute la société? Ces perspectives ne peuvent venir que d'un parti qui rejette tout l'ordre bourgeois, d'un parti qui se réfère au mouvement ouvrier, à tout ce passé fait de révoltes, d'insurrections et de révolutions ouvrières. Car la classe ouvrière a tout un passé de combat. C'est un passé dont les travailleurs peuvent être fiers et qui leur ouvre des perspectives. La bourgeoisie a intérêt à l'ignorer ou à le déformer. Mais même les partis ouvriers que les travailleurs s'étaient construits lui ont tourné le dos depuis longtemps. Eh bien, c'est en reprenant ce flambeau du mouvement ouvrier que la classe ouvrière pourra devenir fière de ce qu'elle est et de ce qu'elle porte. Le combat pour s'émanciper de l'exploitation et pour libérer toute la société du capitalisme. Dans cette élection, nous voulons faire entendre la nécessité pour les travailleurs de se battre pour leurs intérêts matériels, vitaux, essentiels. Et nous voulons faire entendre la nécessité de se fixer pour but final le renversement de la bourgeoisie. Parce que la bourgeoisie nous mène à la catastrophe économique, sociale, écologique. Oui, si le mot « anti-système » a un sens, c'est celui-ci. Vouloir en finir avec cette classe sociale qui domine toute la société. En finir avec la loi du profit, avec cette concurrence infernale et ce marché. En finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans cette élection, nous sommes les seuls à défendre cette perspective de renverser l'ordre social capitaliste. Dans cette campagne, tous les candidats mettent en avant la transition écologique. Et pour ce faire, il leur arrive d'évoquer la nécessité de repenser l'économie ou de remettre à plat toute l'organisation économique. Mais cela ne signifie jamais poser la question centrale, la question essentielle. Allons-nous, oui ou non, laisser les manettes de l'économie dans les mains d'une minorité capitaliste qui ne jure que par ses profits, ses dividendes, ses retraites chapeaux et ses cours boursiers? Et au bout du compte, leur politique consiste toujours à concevoir des plans d'aide aux capitalistes, des plans pour les inciter à s'orienter vers de nouvelles filières. De fait, ils proposent tous de faire dépendre l'avenir de l'humanité et de la planète de ces mêmes capitalistes qui tuent la planète à petit feu depuis qu'ils dominent toute la vie économique et sociale. Car qui exploite depuis 2 siècles les gisements de charbon et de pétrole en ravageant des régions entières, en polluant les sols, les fleuves, les nappes phréatiques et en empoisonnant les populations riveraines? Qui a transformé en désert des millions de kilomètres carrés de terres agricoles en les surexploitant? Qui envoie en Afrique ou en Asie ces déchets industriels, cancérigènes, radioactifs ou en plastique non recyclable pour économiser le coût de retraitement? La réponse est toujours la même, ce sont les capitalistes. Et il faudrait confier la transition écologique à ces irresponsables qui empoisonnent et réchauffent la planète, à ces irresponsables dont le mode de production est en train de provoquer une nouvelle extinction des espèces vivantes. Eh bien, contrairement à tous ces candidats, nous ne confierons jamais notre avenir et celui de la planète à la bourgeoisie. Nous ne devons faire aucune confiance à cette classe capitaliste. C'est la raison pour laquelle il faut aussi rejeter le protectionnisme. Dans cette campagne, le protectionnisme est mis à toutes les sauces. Les uns le veulent solidaire, les autres intelligent. Les uns le veulent aux frontières nationales, les autres aux frontières de l'Union européenne. Mais l'idée est toujours la même. C'est taxer les produits aux frontières, les rendre plus chers, pour aider les entreprises françaises à être plus compétitives et créer des emplois. On en revient, au final, toujours à la même politique. Taxer les consommateurs, faire payer les petites gens, taxer ceux qui, précisément, sont forcés d'aller au moins cher parce qu'ils sont mal payés ou parce qu'ils ont une petite retraite. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, pour aider les capitalistes, pour leur assurer des marchés protégés. Et qu'est-ce que les capitalistes feront de ces fameux marchés protégés? Des havres pour l'emploi, des havres pour les travailleurs, des marchés où les consommateurs pourront trouver de quoi se satisfaire avec des produits sains et de qualité. Des marchés protégés, il y en a déjà. Prenez la grande distribution. En voilà une, activité locale. Les grandes surfaces sont-elles moins rapaces que les autres? Sont-elles soucieuses des conditions de travail de ses salariés? Versent-elles de meilleurs salaires? Est-ce qu'elles embauchent? Est-ce qu'elle rémunère les petits producteurs au juste prix? Évidemment non. La politique protectionniste, c'est une politique pour la bourgeoisie, pour ses affaires. C'est une politique qui nous fait dépendre encore et toujours de ses 4 volontés. Encore une fois, Il n'y a que des coups à attendre de ces gens-là. On peut leur dérouler le tapis rouge, leur promettre tous les marchés protégés possibles et imaginables. Ils écraseront les travailleurs tant qu'ils le pourront, comme ils se moqueront de l'environnement. Renforcer les frontières n'obligera aucun groupe industriel et financier à embaucher, augmenter les salaires et respecter les conditions de travail et de vie des salariés. Les travailleurs ne se protégeront pas s'ils ne savent pas contre qui ils doivent se battre. Les travailleurs ont à se protéger de leurs exploiteurs. Ils ont à se protéger de la rapacité des grands groupes. Ils ont à se protéger d'un système basé sur l'irresponsabilité et sur la loi du profit. La bourgeoisie est dépositaire des possibilités immenses créées par l'humanité. Et elle les gâche. Le pire de ce qu'elle nous coûte n'est pas dans l'accaparement des richesses, mais dans ce gaspillage. Tous les politiciens accordent à la bourgeoisie la qualité d'investisseur parce qu'elle est assise sur une montagne d'or. C'est à ce titre que les actionnaires empochent les bénéfices et monopolisent le pouvoir dans les grands groupes. Eh bien, ils ne méritent pas cet honneur parce qu'à moins de profits rapides et assurés, ils ne veulent pas investir. Leurs investissements, ce sont le plus souvent des rachats d'entreprises existantes. Oh, prendre la gestion des autoroutes ou des aéroports de Paris, alors ça, oui, ça les intéresse. Parce que cet investissement-là consiste à racheter à bon prix des infrastructures construites avec de l'argent public pour les transformer en tiroirs-caisses. Mais investir, par exemple, pour résoudre la crise du logement ou pour reprendre une entreprise comme Ascoval, répondre aux besoins essentiels de la population, ce n'est pas leur problème. L'État leur livre pourtant tout sur un plateau. Les salariés, les chercheurs, les infrastructures, ils sont arrosés d'argent public. Le CICE, le crédit d'impôt recherche. Et puis quand ils font de mauvaises affaires, ils peuvent toujours compter sur l'aide de l'État. Mais encore une fois, investir, ce n'est pas leur problème. D'ailleurs, qu'est-ce qui les pousserait à investir dans la production utile quand la finance et la spéculation rapportent 100 fois, 1000 fois plus? Alors, si on compte sur la bourgeoisie pour investir, créer des emplois, faire la transition écologique, cela prendra des siècles, comme pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et ce sera trop tard, parce que ce qui nous attend, c'est une nouvelle crise financière. Tous les experts financiers sont unanimes. Nous courons tout droit vers un nouveau crack. La charge explosive est encore plus grande qu'en 2008 et nul doute que les ravages seront encore plus dévastateurs. Alors ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour, c'est le renversement de cette classe de parasites par les travailleurs. Les travailleurs, ils sont finalement les seuls à investir réellement dans les entreprises. Eux, ils investissent le meilleur d'eux-mêmes. Ils consacrent à l'entreprise l'essentiel de leur temps, de leurs compétences, de leur énergie. Ils sont forcés d'adapter leurs projets personnels et leur vie de famille en fonction de leur travail. Et parfois, ils y investissent même leur santé. Et tout ça pourquoi? Pour enrichir des générations de bourgeois, pour être traités comme des pions, ballottés d'actionnaires en actionnaires, pour ne jamais avoir leur mot à dire et risquer d'être mis à la porte du jour au lendemain. Et bientôt ou tard, les travailleurs ne l'accepteront plus. Ils prendront eux-mêmes les choses en main et prouveront qu'ils sont capables de diriger 1000 fois mieux l'économie que cette classe aveuglée par le profit. Même pour unifier l'Europe, on ne peut pas s'en remettre à la bourgeoisie. Même sur ce terrain, qui correspondrait pourtant à ses intérêts généraux, elle s'est révélée incapable. Il ne faut pas en être surpris. La construction européenne n'a été qu'une longue histoire de marchandage sordide entre bourgeoisies européennes pour disposer tout à la fois d'un marché élargi, tout en continuant de disposer de tous les avantages d'un État national. Le résultat de ces rivalités et de ces compromis, eh bien, c'est l'Union européenne que l'on connaît. Une Europe rabougrie et qui est même en train de se déliter avec le Brexit. C'est un mariage de raison où chacun fait chambre à part, défend son pré carré, ne met surtout pas son compte bancaire en commun et où n'importe quelle scène de ménage peut conduire au divorce. Mais, nous dit-on, L'Union européenne a au moins garanti la paix. Eh bien, même ça, ce n'est pas vrai. Le continent européen lui-même a été déchiré par des guerres sanglantes, celle de l'ex-Yougoslavie au début des années 1990 et celle en Ukraine depuis 2014. Les dirigeants européens se vantent d'être des forces de paix parce qu'au cours des dernières décennies, ils n'ont pas fait s'entretuer leur propre peuple, comme ils l'ont fait pendant les deux guerres mondiales. Mais ils font s'entretuer d'autres peuples dans le tiers-monde, du Rwanda à la Syrie, en passant par l'Irak ou la Libye, des millions de femmes et d'hommes ont péri sous les coups de machettes ou sous les bombes. Des pays entiers ont été ravagés. Tant que domine une poignée de capitalistes et tant que les rapports entre les peuples sont des relations de domination, de concurrence, de pillage, d'exploitation, il n'y aura pas, il ne peut pas y avoir ni de paix, ni d'Europe unie et fraternelle. Cette Europe-là, c'est les travailleurs qui la feront naître une fois qu'ils auront pris le pouvoir. Le plus détestable est qu'ils ont transformé l'Europe en forteresse. Aujourd'hui, quand Macron propose de relancer l'Union européenne, c'est en révisant Schengen pour rendre cette forteresse encore plus imprenable, en multipliant les gardes-frontières, les barbelés et les murs. Les mêmes qui avaient applaudi à la chute du mur de Berlin sont en train de reconstruire de nouveaux rideaux de fer. Ils ont fait de la Méditerranée un cimetière marin. Et cette politique est non seulement le fait des nationalistes comme Salvini en Italie, mais aussi de ceux qui, comme Macron, se prétendent progressistes. Eh bien, tous ces gens-là veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Nombre de politiciens aiment à rappeler les racines chrétiennes de l'Europe. Mais sans remonter plus loin, elles sont aussi gréco-romaines, c'est-à-dire une civilisation qui s'est épanouie autant au sud et à l'est qu'au nord de la Méditerranée. Et les cathédrales d'Europe, comme Notre-Dame de Paris, n'auraient pas pu être bâties sans l'apport, ne serait-ce qu'indirect, des architectes arabes. Quant à l'économie capitaliste elle-même, elle est mondialisée depuis toujours. Elle s'est même développée à partir du commerce international. À partir du commerce avec l'Afrique, avec l'Asie, avec le Moyen-Orient, avec le commerce triangulaire et la traite esclavagiste au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui ont été à la base de la révolution industrielle. Puis, il y a eu la colonisation qui a lié l'Europe et en particulier la France au Maghreb et à l'Afrique. Parce que oui, quand les colonisateurs français sont allés piller le Maghreb et l'Afrique, drapeau bleu, blanc, rouge en tête, eh bien ils en ont créé des liens. Dans l'oppression, dans le sang, dans l'exploitation. Que ce soit en créant des troupes d'indigènes dans les deux guerres mondiales, que ce soit en recrutant pour les mines de Lorraine, les usines automobiles ou dans le bâtiment. Ces liens, eh bien, ils sont là aujourd'hui. Des millions de femmes et d'hommes vivent avec de la famille, d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Et maintenant, les dirigeants veulent transformer la Méditerranée en fossé infranchissable. L'idée elle-même est révoltante. Mais de toute façon, ils n'y arriveront pas. Aujourd'hui, les échanges, les moyens de communication, les liens économiques, culturels, humains entre les peuples n'ont jamais été aussi poussés. D'un bout à l'autre de l'Europe, on rencontre les mêmes grands groupes, les mêmes grandes enseignes, les mêmes grands capitaux. D'un côté, les capitalistes ont construit des holdings et des trusts mondiaux qui amènent les travailleurs de tous les pays à communiquer et à coopérer. Combien de réseaux d'entreprises, de services sont étroitement interconnectés et ne fonctionnent que grâce à la coopération de millions de travailleurs qui peut-être ne parlent pas la même langue, mais font ensemble une portion du même travail. Oui, ils poussent de gré ou de force les travailleurs du monde entier à se fondre dans une seule et même grande classe ouvrière internationale. Et leurs serviteurs politiques voudraient rendre les frontières hermétiques et présenter tout ce qui vient de l'étranger comme une menace. Mais tous ces gens-là sont complètement dépassés par leur propre système. Ils sont devenus complètement réactionnaires. Alors, pour ce qui est de l'Europe, eh bien notre perspective, c'est celle d'une Europe véritablement unie et sans frontières. C'est celle d'une Europe fraternelle, une Europe de la coopération entre les peuples ouverte sur le monde. Il y a déjà un siècle, en 1914, alors qu'éclatait la Première Guerre mondiale. Trotsky parlait ainsi des objectifs que le prolétariat devait se fixer. Pour le prolétariat européen, il ne s'agit pas de défendre la patrie nationaliste, qui est le principal frein au progrès économique. Il s'agit de créer une patrie bien plus grande, les républiques des États-Unis d'Europe. Première étape sur la voie qui doit mener aux États-Unis socialistes du monde. Eh bien, cette perspective est plus que jamais la nôtre. La seule issue pour l'humanité est de renverser le capitalisme. C'est de renverser cette économie basée sur la recherche individuelle de profit et la remplacer par une économie visant la satisfaction de tous. C'est d'en finir avec les lois aveugles de la concurrence et du marché et d'organiser, de planifier l'activité économique, de répartir le travail, les capitaux, de façon à gérer les ressources de façon rationnelle, d'éviter les gaspillages, la pollution. Pour y parvenir, il faut exproprier la bourgeoisie des grands moyens de production et transformer les grandes banques, les groupes de l'industrie, de l'énergie, du bâtiment, des transports, les multinationales de la distribution et du numérique en propriété collective. Entre les mains de la bourgeoisie, tout se transforme en instrument d'oppression. La robotisation, la numérisation et l'intelligence artificielle sont autant d'outils utilisés contre l'emploi et contre les exploités. Autant d'outils pour resserrer leur emprise sur la population. Mais pensez à tout ce qu'il serait possible de faire si les travailleurs contrôlaient ces moyens fantastiques pour soulager le travail, pour diminuer considérablement le temps de travail de chacun. Et il en va de même avec les liens économiques, sociaux et humains qui ont été tissés au travers de cette mondialisation. Ce sont des liens précieux. C'est la base sur laquelle un système plus performant que jamais s'est développé. Eh bien, il faut que les travailleurs les reprennent à leur compte, de sorte qu'ils servent à l'humanité tout entière. Oui, un tas de choses aujourd'hui inimaginables deviendraient possibles et changeraient réellement la face du monde. On pourrait à nouveau mener de grands projets. Au pouvoir, dans un pays riche comme la France, les travailleurs pourraient s'adresser aux exploités du reste du monde et leur proposer bien des choses. Ils pourraient payer la dette de sang et de massacres et de pillages perpétrés par notre bourgeoisie impérialiste, ne serait-ce qu'en mettant à disposition des travailleurs de ces pays la possibilité d'utiliser les moyens productifs qui sont ici. Un temps, Borloo, qui cherchait sans doute une façon d'exister après avoir quitté le pouvoir, avait caressé le rêve d'électrifier l'Afrique. Pour cela, il était parti en quête de 4 petits milliards par an sur 15 ans, une somme dérisoire, pour permettre à chaque village, chaque quartier, d'accéder à l'électricité, avec tous les bouleversements que cela impliquerait pour 600 millions d'Africains privés d'électricité. Eh bien, il n'a jamais réussi à les rassembler. Pour mener à bien un tel projet, et bien d'autres encore, eh bien il faudra la révolution, il faudra que les travailleurs prennent le pouvoir. Seuls les travailleurs recèlent les capacités pour changer la société de fond en comble. Dans cette dernière période marquée par le mouvement des Gilets jaunes, la classe ouvrière ne s'est pas mobilisée en tant que telle. Mais si la mobilisation avait touché les grandes entreprises, si celle-ci avait été arrêtée par la grève, c'est la fabrique du profit de la bourgeoisie qui se serait immédiatement stoppée. Et si les travailleurs avaient occupé les usines, c'est la propriété privée de celle-ci qui aurait été menacée. Les travailleurs auraient pu transformer leur bagne de tous les jours en des lieux de discussion et d'organisation démocratique. Ils auraient pu les ouvrir à tous les exploités des alentours, aux ouvriers des petites entreprises, aux retraités, aux chômeurs, à tous ces prolétaires isolés qui se sont retrouvés sur les ronds-points. Oui, les entreprises, prises en main par les grévistes, auraient pu devenir des pôles de rassemblement, d'organisation et de direction de la lutte pour tous les exploités d'une région. Et tout cela sur une base prolétarienne, c'est-à-dire avec la possibilité d'inverser véritablement le rapport de force avec la bourgeoisie. Alors cela ne s'est pas fait, mais un jour, cela se fera. Les explosions sociales sont toujours imprévisibles. Aucun parti, aucun syndicat ne peut les déclencher. Ce sont des phénomènes de masse qui leur échappent. Une simple étincelle peut mettre le feu à la plaine, dit le proverbe. Mais personne ne peut prédire quelle étincelle le fera. Regardez l'Algérie. En Algérie, le pouvoir de Bouteflika a duré 20 ans. Il a été élu et réélu 4 fois. Et la dernière fois, la quatrième fois, alors même qu'il n'était déjà plus physiquement présent. Et puis, ça a été la 5e candidature, qui a été celle de trop. Et maintenant que la population a pris conscience de sa force, eh bien, il ne lui suffit plus que Bouteflika soit officiellement écarté du pouvoir. C'est tout le système qui doit dégager, comme ils disent. Alors, en Algérie, le combat ne fait que commencer pour les travailleurs. Mais c'est dans ces moments de révolte profonde que bien des choses deviennent possibles. C'est dans ces moments que les prises de conscience s'accélèrent pour les opprimés, qu'ils découvrent leur force et réalisent qu'ils peuvent devenir les maîtres de la société. Les révoltes sociales, et plus encore les révolutions, sont des événements rares. Dans tous les pays industrialisés, comme dans les pays pauvres, partout où il y a une classe ouvrière, celle-ci a montré à maintes reprises de la combativité. La grande leçon des révolutions ouvrières passées, et surtout de celle qui a été l'événement le plus exceptionnel de l'histoire humaine des derniers siècles, la révolution russe du prolétariat de 1917, c'est, donc cette grande leçon, c'est que la classe ouvrière a besoin d'un parti révolutionnaire. Pour pouvoir aller au bout de son combat, elle a besoin d'un état-major, d'un parti qui sache proposer aux travailleurs et aux masses populaires en mouvement une politique représentant leurs intérêts face aux différentes politiques de tous les partis bourgeois. Nous n'avons pas l'illusion ni la prétention de penser que nous sommes le parti révolutionnaire qui permettra à la classe ouvrière de prendre le pouvoir. Ce parti reste à construire. Mais nous pouvons avancer à partir de la petite organisation que nous sommes, en nous efforçant de proposer une politique aux travailleurs, en utilisant tous les moyens à notre disposition pour faire connaître cette politique et pour regrouper le maximum de travailleurs autour d'elle. Et encore une fois, cette campagne électorale et le vote nous en donnent l'occasion. Alors, aidez-nous dans cette campagne, aidez-nous à avancer sur la voie de la construction de ce parti. Lorsque la classe ouvrière se libérera de la résignation, elle deviendra une puissance irrésistible. Dans une montée révolutionnaire, elle a démontré qu'elle a la capacité de tout faire, de s'armer et de décomposer l'armée en entraînant les soldats du rang, de renverser la police et la justice, de prendre tout en charge, de s'occuper des sans-abri en réquisitionnant les logements vides, d'organiser des cantines collectives pour nourrir tout le monde, de réorganiser les hôpitaux, les écoles, les transports et la production, non pas en fonction du profit, mais en fonction des besoins de toute la société. Seule la classe ouvrière peut contrôler les banques et les obliger à accorder les crédits dont ont besoin les petits artisans et les petits commerçants. Elle seule peut empêcher les capitalistes de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire d'étrangler les petits paysans. C'est cette capacité d'organiser la société qui en fait la classe qui fait donc de la classe ouvrière la classe révolutionnaire et lui donne les moyens d'apporter de vraies solutions à toutes les autres classes opprimées de la société. Si aujourd'hui les travailleurs n'ont pas confiance en leur force collective et qu'ils subissent les coups redoublés de la bourgeoisie et de son État, nous avons une confiance totale dans leur capacité à changer la société. Incarner cette perspective politique, la maintenir vivante en y gagnant des jeunes et des travailleurs sera un gage pour l'avenir. Tout ça, vous pourrez le dire en votant pour notre liste dans ces élections. Alors, aidez-nous en cette fin de campagne. Un peu plus d'une semaine nous sépare du vote. Ce sont 10 jours de campagne, 10 jours où il faut se démultiplier, voter et faites voter contre le grand capital, le camp des travailleurs.